Alors, je remercie le Seigneur, la Jésus-Christ, de m'avoir permis de trouver un thème de prédication et de réflexion également. Parce qu'on discutait avec Billy mercredi, on ne savait pas trop encore s'il allait pouvoir revenir ou pas par rapport au test. Et puis, donc, jeudi soir, il m'a confirmé que je ne pouvais pas. Et donc, je me demandais si je pouvais prendre sa place. Et comme je suis assez occupé, ce n'est pas bien de trouver un peu de temps, mais bon, le Seigneur pourvoit. Et gloire à lui pour son miséricorde. Alors je vous invite à prendre vos Bibles et à aller dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 18, versets 28 à 40. L'évangile de Jean, chapitre 18, versets 28 à 40. Ils menèrent ensuite Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate donc sortit vers eux et leur dit « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et le jugez selon notre loi. » Les Juifs lui dirent « Il ne nous est permis de faire mourir personne. » C'était afin que s'accomplisse ce que Jésus avait dit, en marquant de quelle mort il devait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire, et ayant fait venir Jésus, il lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Dis-tu cela de ton propre mouvement, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate lui répondit « Suis-je juif, moi ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs combattraient, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Alors Pilate lui dit « Tu es donc roi ?» Jésus répondit « Tu le dis, je suis le roi. Je suis né pour cela, et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Et quand il lui dit cela, il sortit de nouveau vers les Juifs et leur dit « Je ne trouve aucun crime en lui. Or, comme il est d'usage parmi vous que je vous relâche quelqu'un à la Pâque, voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors tous s'écrièrent de nouveau « Non pas celui-ci, mais Barabbas. » Or, Barabbas était un brigand. La phrase sur laquelle aujourd'hui je m'arrête, qui est dans le verset 38 prononcé par Pilate, est la suivante « Qu'est-ce que la vérité ?» Très important de savoir ce qu'est la vérité. Alors j'ai cherché d'abord une définition pour savoir ce que voulait dire la vérité. Il y a plusieurs définitions qui se rejoignent. La première est la suivante. Ce à quoi l'esprit peut et doit donner son assentiment. Ensuite, notre définition. Connaissance conforme au réel. L'opposé de la vérité étant l'erreur, l'ignorance, le mensonge. Une troisième définition, qui est une définition philosophique, la vérité serait, donc là on parle au conditionnel, la vérité serait l'image correcte ou la connaissance que nous avons de la réalité. Alors dans ce dernier cas, pour cette définition philosophique, ça signifie quelque part que la vérité peut changer puisqu'elle est liée au degré de connaissance ou à l'image reçue à un instant donné d'une chose. Donc ça voudrait dire que la vérité est variable dans le temps, selon cette définition. Je ne dis pas que c'est la vérité. Et moi je dis la chose suivante, c'est que la vérité ne peut pas être variable. La vérité est, puisque sans stabilité, si on ne peut pas s'appuyer sur quelque chose de tangible et qui est constant, dans ce cas-là on ne peut rien construire. Du moment on va construire, mais temporairement. Et puis ce qu'on a construit va être détruit, parce que finalement, la base de la construction est une vérité qui n'est plus une vérité à un instant donné. Donc, on voit bien que là, cette définition philosophique, elle est destinée à perdre les gens. Alors, en ce moment, vous reconnaîtrez qu'on vit une époque extrêmement trouble. Il suffit de considérer les actualités avec cette histoire de pandémie, de Covid-19. Et face à cette actualité, beaucoup de gens, chrétiens et chrétiens, se posent de nombreuses questions. Le virus est-il si dangereux qu'on nous le dit ? Des spécialistes qui sont avérés, qui sont reconnus, et d'autres, dont on peut se poser la question, se contredisent. Certains disent que oui, d'autres que non. Certains disent qu'il y a beaucoup de cas. D'autres disent oui, il y a beaucoup de cas, mais ce qui est important, c'est de considérer s'il y a des morts. S'il n'y a pas de morts, il ne faut pas s'inquiéter, il faut retraiter, etc. Donc, il y a beaucoup de confusion. Le gouvernement lui-même a à un moment donné dit une chose, un exemple, au mois de mars, les masques ne servent à rien. Puis ensuite, ils savent, il faut mettre des masques absolument partout, si c'est nécessaire. Donc, il y a une contradiction qui perdure. Et un gouvernement qui prend des décisions sans concertation. Par exemple, on pourrait très bien imaginer un gouvernement qui décide de demander à la population, par référendum, sur des questions bien précises, ce qu'elle en pense. Ça s'appelle une démocratie. Et d'ailleurs, certains disent que nous sommes actuellement dans une dictature sanitaire. Et serait-ce une dictature sanitaire avant une dictature tout court ? Point d'interrogation. Il y a également dans cette période trouble beaucoup de désinformation de la part des journalistes, ou tout du moins une information qui est orientée uniquement dans un seul sens. On manque de sérénité dans les débats qui sont proposés, et on voit bien que malgré tout, globalement, l'information est dirigée dans une seule direction, faire accepter les choses comme elles sont. Bref, c'est une cacophonie. Et comme dit l'expression populaire, on ne sait pas à quel sein se vouer finalement. Où est la vérité dans tout cela? Il manque une boussole pour indiquer le nord. Et pour tout individu, la boussole, bah, c'est la vérité. C'est notre boussole. Alors justement, que nous dit la Bible à propos de la vérité? Psaume 119-160 dit la chose suivante: le fondement de ta parole est la vérité. Là, on parle de la parole de Dieu. Psaume 119, verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité. Dans l'évangile de Jean, quand Jésus-Christ est réuni pour la dernière fois avec ses disciples, ils ont mangé la Pâque ensemble, il y a ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Et dans Jean 17, verset 17, Jésus-Christ dit: sanctifie-les, à propos de ses disciples, par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et Jésus dit, encore une chose, il dit, dans plusieurs fois, je crois, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et d'ailleurs, à propos de Jésus, et de qui soit lui-même l'incarnation même de la vérité, dans l'évangile de Jean, toujours dans le chapitre 1, au verset 14, il dit les choses suivantes: et la parole, celle de Dieu, a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc Jésus-Christ est la parole de Dieu incarnée en chair. Elle est la matérialisation de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la vérité. Donc la boucle est bouclée, Jésus-Christ est la vérité en soi. Donc, dans cette situation troublée, il est difficile de trouver la vérité finalement, à propos notamment de cette pandémie, de sa dangerosité, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Alors, on va examiner deux aspects. Un premier aspect, c'est, par rapport à une situation double, qu'est-ce qui génère le brouillard sur une information, sur une vérité? Qu'est-ce qui fait qu'on ne discerne pas la vérité? Que c'est flou, qu'on est tiraillé par plein de témoignages ou autres, et qu'on n'arrive pas à se faire une idée sur la vérité, sur la réalité des choses. Et ensuite, deuxième point, c'est quelle est la méthode pour discerner la vérité, pour vraiment trouver la vérité et s'appuyer sur elle, pour pouvoir agir et vivre correctement. Alors, qu'est-ce qui génère le brouillard autour de la vérité? Alors, déjà, la vérité, elle existe sur deux plans. Elle existe sur un plan spirituel et sur un plan physique. Un plan physique, par exemple, c'est de dire que la gravité existe, et donc si je laisse tomber ce stylo, il ne va pas remonter vers le plafond, il va tomber. C'est un constat, mais cette vérité, elle est expliquée par notamment les théorèmes de Newton, qui ont permis de sortir des équations qui mathématiquement montrent pourquoi le stylo tombe par terre. Donc ça, c'est une vérité physique. Mais également, il y a des vérités spirituelles qui conduisent la vie. Alors, sur son plan spirituel, Depuis 12 ans que je suis en activité, j'ai l'habitude d'aller chez les clients pour travailler. Et je constate que depuis 3-4 ans, il y a une recrudescence de présence dans les demeures des personnes, d'effigies, à Bouddha, que ce soit des bustes, des sculptures, des photos, avec des bougies autour. Et donc, force est de constater que l'être humain a en lui, consciemment ou inconsciemment, ce désir secret de développer une spiritualité. On cherche quelque chose. Bouddha, comme dirait l'autre, ça ne mange pas de pain, parce qu'il est tranquille, vous le mettez dans un coin là, il est zen, il ne bouge pas, il inspire la tranquillité, mais si des personnes sont à la panade, bah, il fera rien pour eux. Mais ça rassure les gens, et puis c'est vrai que bah, Bouddha, il ne leur donne rien du tout. Alors que comme on l'a chanté dans une chanson, là, Jésus-Christ a cette exigence. Donc forcément, choisir, c'est renoncer. Alors, qu'est-ce qui vient polluer la vérité? D'abord, comme je disais tout à l'heure, le monde est divisé en deux parties, le monde spirituel et le monde physique. Et dans ce monde spirituel, on constate qu'il existe également deux sphères. Il y a une première sphère, qui est la sphère supérieure, qui domine tout, qui est celle qui est habitée par Dieu notre Père, par Jésus-Christ, par Saint-Esprit et les anges. Et il y a une deuxième sphère, aussi spirituelle, mais qui est inférieure, et qui a été rejetée dans le monde, c'est celle de Satan et de ses démons. Et donc, le monde est matériel est gouverné par cette sphère-là. Et ce n'est pas une invention, puisque même Jésus-Christ le dit lui-même. À un moment donné, quand Jésus-Christ a commencé son ministère, il est emmené dans le désert par le Saint-Esprit pour être tenté. Et dans Matthieu, chapitre 4, versets 8, 9, 10, Satan l'amène sur une montagne et il fait voir tous les royaumes de la terre avec leur magnificence. Et Satan dit à Jésus, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes devant moi. » Et bien sûr, Jésus-Christ refuse. Donc Satan dit, « Je te donnerai toutes ces choses. » Ça veut dire qu'elles lui appartiennent. Et ça veut dire que Dieu a laissé faire les choses. Parce qu'auparavant, Satan était Lucifer. C'était le premier des anges dans la lignée des anges. C'était le plus grand, le plus magnifique. Et lui-même s'est perverti. Et a voulu désobéir à Dieu en voulant se prendre, comme on dit familièrement, calife à la place du calife. Il voulait prendre la place de Dieu. Il est devenu égocentrique et amoureux de lui-même. Et c'est ce qui l'a amené à sa chute et finalement à avoir de la méchanceté dans le cœur. Mais au départ, Lucifer avait été fait parfait. C'est lui-même qui s'est corrompu. Et quand Jésus parle de Satan, il dit bien « le prince de ce monde », on le voit dans Jean 12, 31. Et Jésus-Christ également, dans Jean 14, 30, dit « je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. » C'est-à-dire que le péché étant absent de Jésus-Christ, le diable n'a aucun moyen de pouvoir manipuler ou dominer Jésus. Donc on voit bien que la sphère de Dieu, elle fonctionne sur le fondement de la vérité, de la parole. Et la sphère de Satan, elle fonctionne sur le mensonge. D'ailleurs, on le voit notamment dans Jean encore, je ne sais plus, je crois que c'est le chapitre 18, quand Jésus s'adresse aux pharisiens, ceux-ci prétendent aimer le Père Céleste, il leur dit vous prétendez aimer votre Père, mais votre vrai Père, c'est Satan, qui est le Père du mensonge et qui est criminel. Donc, on voit bien que l'apanage de Satan, c'est le mensonge, c'est le crime, c'est la méchanceté. Et donc, la sphère physique où nous vivons sur Terre est imprégnée de ces concepts spirituels. le mensonge, la méchanceté, le crime, tout ceci règne, puisque Satan règne sur cette sphère-là. Donc, il n'est pas étonnant de voir dans des choses, on va dire, matérielles, banales, que le mensonge règne et qu'il y a tout un tumulte qui fait que pour des personnes du monde qui ne sont pas au Seigneur, il leur soit difficile de trouver la vérité. Alors, qu'est-ce qui peut donc participer à l'altération de la vérité? Donc, on l'a dit, le mensonge. Ensuite, vous pouvez avoir également un problème où vous avez des avis qui sont contraires et qui chacun semble être bon. Donc l'un va dire une chose qui va être opposée de l'autre. Et la façon dont le dit la personne, les arguments qu'il avance semblent bons. Donc c'est difficile de savoir, pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste, bah, finalement où est la vérité. Mais il y a également beaucoup de gens qui sont eux-mêmes altérés par leur propre convoitise, par leur orgueil, par leur corruption. On le voit, par exemple, il est notorié que le conseil sanitaire qui aide le gouvernement à prendre des décisions, dans sa composition, une grande majorité de ces gens-là ont des liens financiers avec des laboratoires. Et ça, c'est de notoriété publique, ça a été publié dans des journaux, donc c'est connu. Et donc, on peut légitimement se poser la question en quoi leur avis ou leur opinion peut être objective si ces gens-là ont des liens intéressés et intéressants avec des organismes du monde, des laboratoires, qui les amèneraient à prendre des décisions qui ne sont pas forcément pour le bien de la population, mais qui vont par contre dans l'intérêt des laboratoires et dans leur propre intérêt. Donc on voit bien que là, la vérité est absente. Et ces gens-là peuvent très bien le faire de façon consciente ou inconsciente, parce que leur degré de conscience n'est pas suffisamment élevé pour se rendre compte qu'eux-mêmes sont corrompus ou qu'eux-mêmes sont orgueilleux et que cela a une influence sur les vérités qu'ils peuvent proférer. Donc, tout ceci participe à la cacophonie. Et donc, la question c'est, ben, dans tout ce brouhaha, comment soi-même se faire une opinion? Comment soi-même trouver la vérité? Alors, la première chose, l'attitude qu'on doit adopter pour examiner un problème, elle nous est donnée notamment par Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Verset 15, car ainsi dit le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est en retournant à moi et en demeurant tranquille que vous serez sauvés. C'est dans le repos et la confiance que votre force sera votre force. Voilà. Alors, il y a deux choses dans ce verset-là. Il y a le fait de retourner vers l'Éternel et ensuite de demeurer tranquille, d'être en repos, d'avoir confiance. Mais il y a une chose que les gens du monde qui ne sont pas croyants peuvent quand même prendre, c'est d'être dans le repos et de prendre de la distance, d'être tranquille, pour justement examiner les choses et ne se pas laisser emballer par cette espèce de tumulte qu'il y a sur les annonces qui sont faites, souvent catastrophiques, et donc de pouvoir prendre de la distance pour justement examiner les choses. Et ensuite, bien sûr, il faut s'informer sur un sujet donné. Si on veut savoir quelque chose, si on veut connaître la vérité, ben, il y a un minimum d'investissement à avoir personnel. Il faut donc chercher l'information auprès de sources. Donc les sources, en ce qui nous concerne, ben, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Pourquoi c'est la Bible? Puisque nous connaissons tous ce verset du second épître à Timothée, au chapitre 3, versets 16 et 17. Toute l'écriture est divinement inspirée. Voilà, je vous laisse le trouver. Toute l'écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc ça, c'est un des versets qui nous guide sur le plan spirituel. Et pour un domaine matériel, on va dire, il faut chercher dans des livres, il faut chercher auprès de personnes qui savent, des spécialistes reconnus. Donc il faut également savoir reconnaître quelle est leur crédibilité. On a vu les polémiques qu'il peut y avoir entre certaines personnes qui se disent spécialistes et d'autres qui le sont réellement parce qu'elles ont derrière eux 30 ans d'activité dans ce domaine, parce qu'elles émettent des articles scientifiques, parce que leurs articles scientifiques ont toujours été considérés comme étant de première qualité, des premiers choix. Donc, à un moment donné, il faut bien observer les sources d'informations et déterminer quelles sont celles qui sont crédibles et celles qui ne le sont pas. Par exemple, les Bibles, c'est pareil, il y a des Bibles. Par exemple, si vous prenez les Bibles de Jérusalem, qui est catholique, vous trouvez les livres apocryphes. Voilà, donc, quelqu'un qui ne connaîtrait pas, ça pourrait lui sembler bien comme Bible. Mais justement, si il cherche, il va trouver également qu'il y a d'autres Bibles qui n'ont pas les livres apocryphes. S'il tombe sur une Bible de témoins de Jéhovah, ben peut-être qu'il va avoir encore autre chose. Donc, à un moment donné, il faut comparer les choses, et puis, éventuellement, si on a du mal à statuer, ben voir quelqu'un, connaître quelqu'un qui vraiment est un spécialiste, ou tout du moins un connaisseur, qui est crédible dans ce domaine-là, pour lui demander son avis. Parmi toutes ces Bibles, quelle est celle que tu me conseilles pour m'enseigner des choses de Dieu? Ensuite, également, il faut voir si les choses qui sont annoncées se passent réellement. En ce qui nous concerne, dans la Bible, on sait très bien qu'il y a une multitude de prophéties qui ont été annoncées, qui se sont accomplies. D'autres qui ont été annoncées et qui ne sont pas encore réalisées, mais qui vont le faire. Parce que la parole nous l'atteste et parce que nous connaissons que Dieu est dans la vérité. Il ne ment pas, contrairement à Satan. Donc, à un moment donné, il faut confronter les choses à l'instant T et à l'instant T moins 1. Un exemple fortuit, au mois de mars, on nous disait que les masques servaient à rien. Et puis tout d'un coup, après, on vous dit que les masques servent à quelque chose. Donc là, il y a une incohérence. Pourquoi à un moment donné c'est non, un moment après c'est oui? Donc là, il faut se poser des questions, il faut interroger. Donc, la cohérence est importante dans la vérité. Et également, il faut qu'il y ait une pertinence dans la comparaison des critères. C'est-à-dire qu'il faut choisir les points qui vont nous permettre de déterminer si telle chose est véritable ou ne l'est pas. Donc, établir la vérité, se faire une opinion sur la base d'une vérité, est un, nécessaire, difficile, ça c'est, il faut le reconnaître, mais n'est pas impossible. Et une fois qu'on a pu mettre en place cette méthodologie, qu'on a pu prendre cette distance par rapport au brouhaha pour justement calmement faire le point sur les choses, eh bien, il y a une qualité importante qu'on doit avoir, en tout cas que nous, chrétiens, nous sommes appelés à avoir, c'est justement l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, nous avons l'éloge de l'amour, et notamment ses caractéristiques. Et je terminerai là-dessus. À partir du verset 4 jusqu'au verset 8, il nous est dit chose suivante. La charité, l'amour est patiente. Donc, pour établir la vérité, il faut être patient, il ne faut pas être pressé. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante pas. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Donc, dans la recherche de la vérité, il faut être humble. Ne pas croire qu'on sait tout, mais justement, penser qu'on ne sait rien et qu'on est là pour apprendre et qu'en cherchant l'information, on va pouvoir justement apprendre. Elle ne s'enfle point d'orgueil, elle n'est point malhonnête. La vérité, c'est le contraire de la vérité. Elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'égrit point, elle ne pense point à mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle supporte tout, elle croit tout, elle espère tout, elle endure tout. La charité ne perd jamais, ne périt jamais. Donc, c'est ce à quoi nous devons tendre, l'amour. Et je donne pour ça l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans l'amour, on voit bien que l'une des caractéristiques de l'amour, c'est la vérité. L'amour se réjouit dans la vérité. Et donc, nous aussi, nous pouvons nous réjouir, non seulement de l'amour de Jésus-Christ à notre égard, mais également de la vérité, puisque le Seigneur nous invite à vivre dans la vérité, en esprit et en vérité, pour l'adorer à lui et à notre Père Céleste. Que Dieu vous bénisse.
Merci.